Retour en plateau, il est 17h03 sur Fréquence Mistral. C'est notre crémaillère radiophonique et j'ai le grand plaisir d'accueillir Bernard Jeanmey, le maire de Manosque. Bonjour monsieur le maire.
Bonjour monsieur Malabar, merci de nous recevoir dans ces locaux somptueux. Ça vous change des locaux spartiates que vous aviez avant et ça me fait bien plaisir de vous voir installé dans ce beau bureau.
Merci à vous d'être présent parmi nous, également votre premier adjoint Bernard Diguet qui est en charge notamment de la sécurité à Manosque et on parlera évidemment de notre belle ville de Manosque. Bonjour Bernard Diguet.
Bonjour François.
Bernard Jeanmey, la ville de Manosque se développe elle aussi tout à fait à l'image de notre radio et c'est une ville qui marque des points en termes de développement économique notamment.
Moi, je pense qu'on marque des points depuis 2001, puisque depuis 2001, ce qui nous a permis d'avoir un développement qui, je pense, est harmonieux, c'est la modification du PLU, dont le premier PLU a été signifié en 2005, en septembre 2005, ce qui nous a permis d'avoir et d'agrandir nos territoires pour essayer d'amener d'abord des activités aussi bien artisanales qu'industrielles, et puis de construire des logements qui étaient une nécessité impérieuse pour nous, puisque à l'époque on recherchait de la croissance interne pour essayer de régler les problèmes financiers qu'on avait dans la mairie.
On peut dire aussi que le chantier ITER à côté de Manosque est aussi un plus pour ce territoire.
Bien sûr, c'est un plus. D'abord, la première retombée qu'on a, nous, c'est qu'on a eu la chance d'obtenir l'école internationale, qui est un atout extraordinaire pour nous, puisqu'elle attirera, bien entendu, dans l'avenir, les entreprises qui vont venir travailler sur le site de ITER, et que ce qu'on cherche, nous, aujourd'hui, c'est d'essayer de récupérer les fournisseurs, donc les constructeurs du réacteur, qui s'installeront, puis vont pendant une 10 ou 15 ans pour la construction du réacteur, et ensuite assisteront, bien sûr, pendant une quarantaine ou une cinquantaine d'années pour la qualification du réacteur. C'est cela qu'on veut essayer d'attirer dans notre territoire, parce que alors il y a l'école internationale qui, bien sûr, est un atout extraordinaire, et puis ce qu'on essaye, c'est d'attirer ces entreprises par les réseaux industriels que j'ai encore en ma possession.
La ville de Manosque que vous gérez se développe, vous êtes très attentif à sa situation économique, mais vous êtes aussi attentif à nos concitoyens ici à Manosque qui souffrent, et vous développez des actions sociales particulières sur Manosque.
Je crois d'abord que dans le budget 2015 que le conseil municipal a présenté, on a privilégié l'action sociale parce que je pense qu'on est de tendre la main à ceux qui souffrent, et ça me semble être une nécessité qui deviendra de plus en plus impérieuse et de plus en plus nécessaire, puisque plus ça va aller, plus on aura des problèmes aujourd'hui qu'on rencontre dans le secteur économique et dans le chômage.
Je vais revenir avec vous tout à l'heure, Bernard Jeanmey, sur DLVA et donc l'agglomération manosquine, mais je voulais poser des questions à votre premier adjoint, Bernard Diguet, qui est en charge notamment de la sécurité à Manosque. C'est un sujet qui préoccupe les manosquins, et la ville de Manosque a des réponses à ces préoccupations.
Oui, tout à fait. En ce qui concerne la sécurité de nos concitoyens, nous sommes très attentifs. Alors, il est vrai que la sécurité, c'est un vaste domaine, et notamment un vaste domaine au moment de l'arrivée de l'été. On sait aussi que le printemps a été, je dirais, relativement chaud en tant que température, et dès lors, on a pu observer des nuisances nocturnes, des nuisances tout autour de notre cité. Et effectivement, la mission que doit remplir la police municipale en parallèle avec la police nationale fait l'objet de réunions, de concertations avec le commandant de police et le chef de la police municipale. C'est une des responsabilités de la collectivité, et nous avons pris le pari de développer notre police municipale, de lui amener de nouveaux outils. Et quand je parle de sécurité, il y va aussi de la sécurité routière. Et depuis peu, on voit que notre police municipale remplit d'autres missions au niveau de la circulation.
Où en est-on de la présence des caméras et de leur utilité, entre guillemets, sur Manosque ?
Alors, même si ça peut paraître pour certains inutile, il faut savoir... Mais bien sûr, à partir du moment où il y a des problèmes sur la ville, les caméras sont très utiles dans la recherche des personnes qui sont incriminées. Et bien sûr, on ne va pas chanter sur les toits à tout à chacun que l'on a reconnu telle ou telle personne. C'est ensuite la police qui fait la suite des interventions. sachant que la police municipale a la lecture des caméras, mais aussi la police nationale, puisque nous avons mis à disposition la lecture des caméras. La police nationale, qui, elle, peut visionner les écrans 24 heures sur 24.
Une coordination entre les deux polices là,
tout à fait.
Intéressant de
donc,
souligner.
Donc bien souvent des missions communes où se partagent la police nationale et la police municipale.
Il y a également l'opération voisin vigilant qui se met en place sur Manosque.
Oui, alors l'opération voisin vigilant est maintenant lancée. On a déjà un quartier qui est organisé avec des référents qui sont bien identifiés. Et avec le commissaire, il y a une véritable entretien, discussion.
On va parler communication et de notre radio plus particulièrement. Vous avez bien connu nos locaux à la rue de la Sonnerie où je vous ai reçu plusieurs fois, ainsi que Bernard Jeanmet. Qu'est-ce que vous pensez de notre installation actuelle ?
Ah bien, écoutez, je suis fort surpris. Et je dirais que par rapport aux locaux anciens dans lesquels vous étiez, il n'y a pas de comparaison. On peut dire que vous étiez, j'allais employer un mot, mais plutôt mal logé et sur des espaces un petit peu dangereux, puisque il y avait des escaliers pour lesquels. Si vous aviez continué de recevoir du public, la commission de sécurité de la ville aurait eu, je pense, certaines remarques à vous faire.
C'est une des grandes raisons de notre déménagement, vous le savez également. Une radio associative comme la nôtre, aux côtés de la ville de Manosque, c'est important ?
Oui, c'est très important. Alors, votre installation remonte maintenant plusieurs années. J'ai eu d'ailleurs l'occasion de me servir de vos prestations au moment où j'étais moi-même impliqué dans le milieu associatif. Pour avoir côtoyé le milieu associatif pendant très très longtemps, je crois qu'aujourd'hui vous êtes un des éléments incontournables pour le milieu associatif quant à la communication, l'information sur les événements et les grands événements qui se font sur Manosque.
Et on est aussi l'interface entre les institutions, qu'elles soient communales, préfectorales ou départementales, et c'est ce qui nous plaît dans cet exercice de notre mission. Bernard Jeanmet, vous êtes également président de Durance-Luberon-Verdon agglomération, autrement dit l'agglomération qui regroupe 26 communes et environ 65 000 habitants sur le territoire. C'est une échelle qui vous convient, cette échelle de pratiquement la moitié des Alpes-de-Haute-Provence ?
D'abord, elle me convient parfaitement, mais surtout, elle convient parfaitement à tous les acteurs de la communauté d'Aglo. Ils ont décidé tous d'un commun accord qu'il fallait qu'on reste entre nous, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas s'agrandir et qu'on voulait d'abord essayer de bien se positionner et bien se poser sur nos 26 communes et 62 ou 63 000 habitants. Donc c'est la décision qui a été prise. Par contre, ce qu'on a pris comme décision, c'est d'essayer de développer l'axe durancien, parce que je pense que c'est une nécessité. Je pense que l'axe durancien verra le jour. On a déjà des accords avec Patrick Martellini. On est en train de négocier des accords avec le Luberon Sud. Et je pense que dans quelques mois, on aura un territoire, dirons-nous, qui représentera environ 100 000 personnes, ce qui représentera une force, dirons-nous, vis-à-vis de la région, où on pourra montrer qu'on existe.
Patrick Martellini, c'est la communauté de communes Moyenne Durance et le maire de Château-Arnoux-Saint-Auban, avec qui nous travaillons, notamment nos collègues de l'antenne de Sisteron Château-Arnoux. Autrement dit, ça veut dire que vous êtes en train de développer un maillage territorial coopératif avec d'autres communautés de communes. C'est bien ce que j'ai compris ?
Ben, c'est l'axe durancien. C'est l'axe durancien et on suit l'axe, c'est la colonne vertébrale de notre territoire. Et je crois que sur cette colonne vertébrale, il y a la Durance, il y a le canal, il y a l'autoroute, il y a le haut débit maintenant, et puis la ligne de chemin de fer, bien entendu, qui aujourd'hui, c'est la colonne vertébrale de notre communauté.
Outre votre ville de Manosque, Bernard Jeanmet, vous allez souvent aussi sur le territoire de DLVA rencontrer les maires, notamment des petites communes. Ça vous change d'échelle, là, par contre ?
Non, mais je crois que ça ne me change pas d'échelle, si vous voulez. Je crois qu'il faut se mettre à la portée de tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de rencontrer tous les maires des communes, des 26 communes, des 25 communes qui nous entourent, pour essayer de reconnaître les problèmes qu'ils rencontrent, ce qu'ils attendent de la DLVA et d'expliquer surtout ce que la DLVA va leur faire dans l'avenir, ce qu'on a commencé à faire. Donc aujourd'hui, il y a un grand travail de pédagogie et d'information qu'on se doit de faire pour que les conseillers municipaux et les maires de chaque commune puissent être bien imprégnés de ce qui se passe à la DLVA et des compétences qu'elle a. Et puis ensuite, il appartient bien entendu aux communes de faire de la communication. Donc c'est la courroie de transmission vis-à-vis de leurs administrés.
Ce matin, nous avons reçu Jean-Claude Castel, le maire de Corbières et vice-président de la DLVA, qui disait que forcément, certains pouvoirs du maire lui échappaient via des intercommunalités. Vous, vous êtes à la fois maire et président d'une agglomération. Est-ce que vous comprenez que certains maires puissent dire « Ah ben, quand même, il y a des choses qui m'échappent, c'est un petit peu dommage. » Et que faire ?
D'abord, la première réponse que je vais vous faire, c'est que j'ai toujours dit que le maire était maître chez lui sur son territoire. Ça, c'est clairement identifié. Et je crois que ceux qui disent le contraire n'ont pas bien compris le sens de ma détermination. Par contre, ce qui est aujourd'hui mis en place, c'est les compétences, c'est l'eau, l'assainissement, le transport, c'est la culture, c'est le ramassage des ordures ménagères. Aujourd'hui, et l'éclairage public, c'est un poids qu'on a enlevé aujourd'hui dans les communes qui n'avaient pas les moyens techniques pour le faire, et je crois qu'aujourd'hui la structure de la DLVA leur permet d'avoir cette assistance technique et de régler les problèmes techniques qu'ils ont. Donc aujourd'hui je crois que ils en sont satisfaits. Bon, ils n'ont pas perdu de pouvoir, ils ont perdu le pouvoir bien entendu sur ces compétences parce que on leur fait à leur place.
Elles ont été transférées,
mais aujourd'hui le maire est maître chez lui et je pense qu'ils le demeureront encore un long moment. Je ne suis pas un ogre d'avaler les petites communes. D'ailleurs, si j'avais été dans cette dimension-là, je crois que je n'aurais pas été réélu à 93% par les conseillers communautaires. Donc, ce qui prouve bien que j'ai toujours prêché ça, et puisque je prêche aussi à longueur de journée, à chaque fois que j'ai l'occasion de le faire, j'ai complètement aboli la politique politicienne dans la communauté d'agglo. C'est un gros mot chez nous et tout le monde, jamais plus personne ne parle de politique politicienne, on parle d'aménagement de territoire et du développement. C'est ça qui m'intéresse.
C'est vrai qu'il n'y a pas des clivages en fonction des étiquettes politiques, et pour suivre les travaux de votre agglomération, je peux en témoigner aussi. Et on parle toujours dans l'intérêt du territoire, et ça fait plaisir de voir qu'il n'y a pas justement ces étiquettes politiques qui prennent le devant et qui prennent le pouvoir.
Est-ce que vous pensez qu'il faut avoir une étiquette politique pour qu'on puisse faire de l'éclairage, régler des problèmes d'eau et d'assainissement, de ramasser
certains,
des poubelles ?
Certains le pensent.
Eh bien, ils le pensent à tort.
C'est une belle réponse, Bernard Jeanmet. Bernard Jeanmet, une radio comme la nôtre, c'est aussi un outil et un atout pour le territoire d'avoir la possibilité, comme vous le faites par exemple, d'intervenir à l'antenne et comme l'ont fait beaucoup de responsables associatifs ou de chefs d'entreprise dans la journée.
C'est un atout, d'ailleurs je peux m'en féliciter parce que je vous vois, monsieur Malabave, dans tous les conseils municipaux et je vous vois tout le rendu que vous nous faites et je crois qu'aujourd'hui c'est une nécessité impérieuse que nous avons pour faire de la communication et je voulais d'abord vous en remercier parce que ça fait de nombreuses années que vous nous suivez, que vous reportez dans le pluralisme complet et je crois que c'est ça qu'il faut vous féliciter, c'est ce que les gens apprécient chez vous. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous êtes dans le pluralisme et que nous sommes aussi bien dans le pluralisme apolitique dans la communauté d'agglo et que vous faites de même avec votre radio.
Avec un pluralisme que nous limitons jusqu'aux extrémités de l'arc républicain, si vous voyez ce que je veux dire, et vous le savez bien ce que je veux dire.
Oui, il faudra que vous me l'expliquiez un peu plus longtemps quand on sera tous les deux.
Il y a des opposants à votre politique, Bernard Jeanmet, qui sont aux extrêmes de l'arc politique avec qui nous avons aucun contact. Voilà, les choses sont claires. Notamment vos élus, malheureusement, du Front National, que je déplore au sein du conseil municipal de Manosque, mais qui sont là, et deux élus du Front National aussi qui sont présents au sein de l'agglomération manosquine, c'est la loi et ils ont été élus, c'est comme ça, mais on peut ne pas être d'accord avec eux et on peut le dire aussi, ça je le dis clairement. Voilà, merci beaucoup Bernard Jeanmet d'avoir été mon invité. Il y a un événement tout à l'heure pour vous, c'est à 19h, l'inauguration du parking de la Villette avec une belle manifestation qui est prévue et notamment nos amis du Cinéma de Pays qui sont venus présenter le film qui a lieu tout à l'heure. Ce parking qui est une réalisation magnifique au service des Manosquins, il faut absolument que les Manosquins s'en approprient.
Tout à fait. D'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, c'est un investissement que la ville a fait elle seule, parce que je me suis refusé de le confier à des entreprises qui voulaient aujourd'hui manager et pratiquer le paiement sur tous les parkings que nous avons. Et puis je crois que c'était pas rendre service à mes successeurs qui viendront. Je crois que c'est un équipement qui doit rester à la ville, dont elles pourront en disposer. On n'a pas à déléguer tout ça à des entreprises qui n'ont qu'une idée en tête, c'est d'en faire du profit. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est un équipement qui est propre à la ville. Bon, ça nous a coûté 11 millions d'euros, mais je crois que dans l'avenir, on saura qu'il s'amortira parce que les gens vont le fréquenter comme ils fréquentent le parking de la Poste à l'heure actuelle.
Et on attend le cinéma qui sera attenant aussi dans quelques mois. Merci encore et puis bonne inauguration à vous aussi de votre côté tout à l'heure à la Villette. Merci à Bernard Diguet, à Bernard Jarmet pour être venu jusqu'ici participer à notre crémaillère radiophonique.
Je vous y invite cordialement à venir tout à l'heure au parking.
J'espère pouvoir venir, ce sera volontiers. À bientôt, merci.
Je vous signale que le parking sera gratuit.
Ah, super.